Un conte de Noël. L'âne et le bœuf de Jean Baster.
Le bœuf et l'âne au paradis est une veillée de Noël écrite par Jean Baster en 1991 et enregistrée sous forme de cassette par les studios protestants Kerux à Paris. Cette veillée franciscaine et écologique a la prétention de faire réfléchir. Utilisant Peggy, Claudel et les pères de l'Église, elle intègre la nature et la création à l'incarnation. Dans une fiction mystique, elle vise à nous conduire à la contemplation du mystère. C'est l'Église tout entière qui est la crèche, et les deux animaux, nos animateurs et prédicateurs.
La scène se passe dans les jardins du paradis. Le bœuf et l'âne sont couchés à l'ombre d'un arbre. Saint François les écoute. Ils évoquent cette nuit où ils ont vu arriver dans une étable, en plein hiver, un couple inconnu. La femme a fait son petit. Les animaux ont soufflé dessus, balançant leurs doux mufles.
Et ces deux gros barbus, et ces deux gros bisons, regardez s'éclairer la lèvre humide et ronde. À ces deux gros poilus et ces deux gros barbons, regardez sommeiller le premier roi du monde.
Ainsi, ces deux experts et ces fins connaisseurs, d'un mufle balancé pesaient le divin fils. Et ces deux courbattus et ces pleins de maïs faisaient les entendus et les intercesseurs.
C'est le poème « Ève » de Peggy. Il nous a bien tiré le portrait en contemplant l'histoire de la création, depuis l'Éden jusqu'à la parousie. Au beau milieu, il plante une crèche et nous avec. On voit à peine Marie et Joseph. Le regard porte sur l'enfant qui dort et nous qui le veillons.
Nous le pesons, nous le jaugeons, nous le calibrons. Et ces deux paysans et ces deux potentats, d'un mufle officieux pesaient le roi leur maître, et ces deux présidents et ces hommes d'État considéraient cet être où se fonde tout être. Ah, un poète ne s'y trompe pas, ces deux bêtes ont bu, elles ont vu le mystère cette nuit-là.
De mes yeux bovins, j'ai accueilli l'étoile. Ma lourdeur ne m'a pas empêché d'arpenter l'infini. J'ai savouré la merveille en ruminant mon foin.
Cela s'était déjà produit aux temps anciens en Mésopotamie. Le prophète Balaam avançait sans rien voir. Il fallut que par trois fois son ânesse se détournât pour qu'il comprît. Devant eux, l'animal avait flairé un ange.
Seulement cette nuit-là, dans le nouveau-né, est apparu plus qu'un chérubin. Cette nuit-là a pris cher la naissance.
Nous avons perçu l'invisible mieux que tous les humains.
Attention, la mère en savait quelque chose, comme Joseph. Elle l'a raconté à Luc. C'est lui qui montre la crèche dans l'Évangile. Depuis, on prête à Luc ma figure comme symbole.
Un ange avait averti Joseph et Marie, et du coup nous aussi. Les docteurs de la foi ignorent cette familiarité des animaux avec les anges. Par-dessus la tête d'Adam, nous échangeons des signes. Nous parlons le même silence. Que ceux qui ont des oreilles entendent.
Tu les allonges, frère. Ces antennes bienheureuses te rendent fin théologien. Tu captes les choses d'en haut. Je suis plus terrestrement philosophe. La courbure du sol m'attire et je hume la rosée du matin. Mais j'y saisis l'arôme du divin.
Thank you.
L'Éternel, premier-né couché sur la paille. Le roi des cieux logé dans une étable. Il entamait ainsi sa vie d'agneau. Au lieu d'un grand palais aux colonnes marbrines ou d'un lit tapissé de royales courtines, ce doux Verbe éternel choisit un pauvre lieu presque sans couverture, n'ayant plus chaud recours contre la grande froidure que le sein maternel.
Il ne faut pas exagérer le dénuement. Jésus a connu l'humilité. L'humiliation, ce sera pour plus tard. Autrefois, dans les campagnes, il n'y avait rien d'offensant à naître et vivre parmi les bêtes, à dormir avec elles.
Celui qui dans le ciel les anges glorifie et dont cet univers le pouvoir magnifie s'est si fort abaissé qu'il est hors le fils de la Vierge sacrée qui lui donne à sucer sa mamelle sucrée le tenant embrassé.
J'aime bien la bonne dame Gabrielle de Coignard, qui a écrit ce chant de Noël au ton d'Henri IV. Elle est à son affaire quand il s'agit d'allaiter. À l'imitation de la Vierge, elle presse contre elle le nouveau-né. Dès son entrée dans le monde, Jésus a eu ce bien suprême dont tout homme a besoin, une mère. Pleine de grâce, Marie l'a nourrie de sa pure nature.
C'est sûr, l'enfant n'a pas été ravitaillé par les anges. Je ris d'un certain recours à la mythologie, espèce de théologie fiction où les imaginations se croient plus fortes que la réalité naïve. La chair porte âme, et le chant fabuleux de la création excède tout répertoire allégorique.
Les savants s'en sont pourtant donnés à cœur joie d'interpréter Noël. Sol invictus, puer eternus. Moi, je veux bien. Mais il y a d'abord une chose toute simple dont j'ai été témoin. J'ai vu dans la crèche une petite boule de chair fripée, enveloppée de l'ange. J'ai assisté au démaillotage de l'archétype quand il a fait pipi dans ses couches.
Comme toi, je garde les sabots sur terre. Et même s'il m'arrive de braire des vérités ineffables sous l'inspiration de l'Esprit Saint, je sais qu'elles ont racine ici-bas et que la terre est fille et mère de l'absolu.
Exactement ce qui s'est passé dans l'étable. Marie, fille et servante, a engendré son Créateur. Appartenant à notre race périssable, elle a mis au monde l'immortel et l'incréé.
Pourquoi le Verbe aurait-il méprisé ce monde qu'il a bâti de ses propres mains? Et il vit que cela était bon. Je pense bien que c'est bon, et beau, et délectable. Tellement bon que quand la peste s'y est mise, le Verbe est accouru pour réparer le mal, reprendre le travail à zéro, ex nihilo, afin de rebondir.
On nous raconte toujours qu'il est venu pour sauver l'homme. Il est venu pour sauver toute la création, toi et moi, et cette paille et ces poutres. S'il s'est fait homme, c'est parce que le mauvais est entré par l'homme afin de tout détruire. Là où la mort avait pénétré, il fallait que la vie vînt s'incarner.
Lorsqu'il faudra aller vers vous, ô mon Dieu, faites que ce soit par un jour où la campagne en fête poudroiera. Je désire, ainsi que je fis ici-bas, choisir un chemin pour aller, comme il me plaira, au paradis, où sont en plein jour les étoiles. Je prendrai mon bâton et sur la grande route, j'irai. Et je dirai aux ânes, mes amis, je suis Francis Jammes et je vais au paradis.
S'il s'est fait homme pour sauver tous les hommes, il a pris chair pour sauver toute chair, celle des bœufs et des ânes comme celle des autres créatures. C'est bien pourquoi nous sommes maintenant au paradis, broutant paisiblement sa gloire.
Mon Dieu, faites qu'avec ces ânes je vous vienne. Faites que dans la paix, des anges nous conduisent vers des ruisseaux touffus où tremblent des cerises lisses comme la chair qui rit des jeunes filles. Et faites que penchés dans ce séjour des âmes, sur vos divines eaux, je sois pareil aux ânes qui mireront leur humble et douce pauvreté à la limpidité de l'amour éternel.
J'ai un regard d'historien. De mon pas lent, je creuse et retourne la glèbe des siècles. Il en a fallu du temps pour que mûrisse cette nuit-là. Maintes fois, auparavant, la parole a bégayé sur les lèvres des créatures. Les événements l'ont déployée peu à peu. Elle n'a pas manifesté d'un coup sa splendeur.
Il y a eu d'abord les saints païens de l'Ancien Testament, Abel, Hénoc, Melchisédek, Job, la reine de Saba. On fait souvent tort au paganisme comme s'il n'avait été qu'un ramassis d'horreurs et de blasphèmes. Les païens ont eu de braves gens innombrables qui cherchaient la vérité. Elle ne leur a pas manqué, même s'ils l'ont reçue d'une façon bizarre, car elle ne se dérobe pas à la demande d'un cœur simple.
On se scandalise des dieux à tête d'animaux de l'ancienne Égypte. On les confond trop vite avec le veau d'or égaré dans le désert d'Israël. Dieu n'a pas condamné le veau, mais qu'il fût en or et qu'au lieu d'être offert en sacrifice, on plia devant lui le genou.
Les idoles à tête humaine ont été beaucoup plus terribles que les idoles animalières à travers les siècles. Elles ont porté l'idolâtrie à un point inouï de perversion. Ou plutôt, elles ont jeté le masque. Derrière l'animal innocent, c'était l'homme pécheur, l'homme traître à Dieu qui ricanait.
Ainsi, les cultes de la nature, du soleil et de la lune, du blé et du vin, ont exprimé d'une manière cachée le divin. Les pères de l'Église se sont plu à y reconnaître des semences du Verbe. Le Créateur aime emprunter le visage de ses créatures. Il fait symbole de tout. Il consonne avec tout. Seul le diable divise.
Écoute donc Maxime le Confesseur. Au VIIe siècle, il affirme qu'il existe une triple révélation du Verbe. Dans la personne de Jésus, bien sûr, à la plénitude des temps, mais d'abord dans le corps de l'univers et le corps de la Bible. À Bethléem, le Verbe se concentre dans une chair pour nous enseigner, en notre langue humaine, la connaissance qui dépasse tout langage. Pour l'amour de nous, il se cache aussi dans les essences spirituelles des êtres créés comme en autant de lettres, présentes en chacune d'elles totalement. Il daigne enfin s'exprimer dans les caractères, les syllabes et les sons de la Sainte Écriture, afin de nous entraîner à sa suite.
Les sages antiques n'ont pas non plus été exclus de la révélation, même s'ils l'ont mal comprise. Mais la saisissons-nous toujours bien maintenant qu'elle est entièrement dans nos mains? Lao Tzu et Platon ont travaillé à incarner le Verbe dans l'histoire. Rien n'est beau dans leurs œuvres qui ne procèdent de la bouche du Père.
Voici encore Clément d'Alexandrie, au IIIe siècle, qui réconcilie la philosophie grecque avec la révélation juive, et ce qu'il en écrit peut s'appliquer à toute philosophie. Il n'y a qu'un seul testament, celui qui, porteur du salut depuis le commencement du monde, est parvenu jusqu'à nous, si l'on comprend qu'il est varié dans ses dons selon les générations et les temps divers. Car il est naturel qu'il n'y ait qu'un seul don irrévocable du salut, venant d'un Dieu unique par l'intermédiaire d'un Seigneur unique. Il nous secourt de bien des manières, et c'est lui qui supprime le mur mitoyen qui sépare le grec du juif.
Sous nos yeux, la triple annonce s'est rendue présente à la crèche. Dans ce premier-né fragile qui récapitulait la gloire de tous les siècles, nous avons vu culminer l'annonce de la révélation biblique.
Les bergers accompagnés de leurs agneaux lui ont fait hommage de la première annonce cosmique, celle qu'après le déluge l'arc-en-ciel instaurait et qu'exprimaient les cultes de la nature.
Les mages lui ont offert l'annonce de l'Orient, celle des savants qui ont sondé le ciel depuis l'origine et se sont laissés conduire au fond du cœur par une étoile irrésistible.
Till he appeared, and the sun.
Peggy a raison. Il y a deux façons de contempler l'incarnation. Le premier point de vue est classique. Se nourrissant sur la paille, c'est Dieu, fait homme. Et homo factus est. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous.
Il s'est anéanti au point de devenir en tout semblable à nous, hormis le péché. Il a comblé l'abîme infranchissable qui sépare le Créateur de ses créatures, en se vidant de sa toute-puissance, pour n'être plus que dépendance. Il a réalisé ce que lui seul pouvait effectuer, pétrir l'absolu avec la chair du relatif.
La révélation chrétienne n'est rien d'autre que cet événement. Mais Peggy découvre qu'on peut la contempler d'un autre point de vue, non plus en partant du Créateur, mais des créatures. Il ne s'agit plus alors d'une aventure arrivée à l'éternel, de s'être fait chair, mais d'une histoire arrivée à la chair, à la terre, d'avoir enfanté Dieu.
Bien sûr, la créature n'a pas enfanté le Créateur par ses propres moyens. Il a fallu l'Esprit-Saint. Elle n'a pas créé Dieu, mais elle l'a fait entrer dans l'histoire. Elle l'a accueilli, nourri et fait croître au sein du déroulement temporel.
C'est tout le mystère de Marie, Mère de Dieu. Au premier siècle chrétien, ce titre a fait rugir bien des théologiens. Ils y voyaient un blasphème. Un concile œcuménique a dû se réunir pour les réduire au silence de cette vérité paradoxale. Une créature a bel et bien été la mère du Créateur.
Vous ne commandez point, ô Vierge incomparable, à ces globes d'azur, de fleurs d'argent semées, que la main du Seigneur dans le monde a formées, pour être les miroirs de sa gloire adorable. Vous ne conduisez point ce soleil admirable, par qui, dans l'univers, les corps sont animés, et de vos chastes mains, les astres enflammés ne prennent point la loi d'un cours invariable.
Vous ne disposez point des foudres des éclairs, vous ne gouvernez point le feu, les eaux, les airs, vous n'avez point sous vous de superbes provinces. Mais Jésus obéit à vos commandements. Et Jésus a sous lui les peuples et les princes, tous les astres des cieux et tous les éléments.
C'est Antoine Godeau qui parle d'or dans ce sonnet somptueux. Évêque de Grasse et de Vence au temps de Louis XIII, c'était l'évêque des Santons de Provence.
Il jubile à placer Marie non seulement au-dessus de tout pouvoir et de toute créature, mais au-dessus du Verbe même. Pendant l'enfance de Jésus. Le béni est le fruit des entrailles de Marie.
Peggy a bien vu la condition à cette suréminence.
À toutes les créatures, il manque quelque chose. À celles qui sont charnelles, il manque d'être pures, nous le savons. Mais à celles qui sont pures, il manque d'être charnelles. Il faut le savoir.
Et à elles, au contraire, il ne manque rien. Sinon vraiment d'être Dieu même, d'être son Créateur. Mais ceci, c'est dans l'ordre. C'est l'ordre même. Car étant charnelle, et elle est pure. Mais étant pure, aussi elle est charnelle.
Il est Jésus-Christ.
Et charnelles, voilà ce que toutes les créatures doivent redevenir à l'imitation de Marie. Offrir une terre vierge à la rosée du Sauveur.
Comme Marie, elles enfanteront Jésus dans leur sein purifié. La semence du Verbe viendra féconder leurs entrailles libérées du doute et de la haine.
La grâce de Noël est dans ce renouvellement intérieur. Elle produit ce nettoyage intime ou du moins elle en inspire le désir, car tout reste à faire ensuite. La route de Pâques s'ouvre à la crèche, mais il faut la parcourir. Et c'est un chemin de croix lumineux et terrible.
Ainsi Jésus grandit en toute créature. Il s'y développe en grâce, en sagesse et en vérité. Chaque homme est responsable de cette maturité. L'aiguillon de l'esprit en main, il conduit l'aventure. Nous, les animaux, nous ne faisons que lui obéir.
Claudel, conversation dans le Loir-et-Cher. Oui, il faut venir au secours de cette création qui gémit et qui a besoin de nous. Il faut venir au secours de l'humanité d'abord, mais aussi il faut venir au secours de l'oiseau et de tous les animaux suivant leur espèce. Il faut venir au secours de la forêt. Il faut venir au secours de la ronce qui demande à devenir une rose.
Il faut que la nature, jusqu'au fond de ses entrailles, entende cet ordre que nous lui apportons au nom du Créateur. Il faut que le Verbe rédempteur se fasse entendre à tout ce que le Verbe créateur a suscité, et que rien ne soit étranger à sa révélation dans la gloire.
Une chair pure n'est pas une chair éteinte, mais accomplie. Pas une chair méprisée, mais habitée. Une hostie vivante, éclatante des rayons de l'ostensoir.
Un corps modeste et limpide, où la braise couve à feu doux, prête à rejaillir. C'est ce que notre frère François a voulu montrer, 3 ans avant sa mort, lorsqu'il fit bâtir à Greccio une vraie crèche.
On avait apporté une mangeoire et du foin. On avait amené un âne et un bœuf. La nuit se fit aussi lumineuse que le jour et aussi délicieuse pour les animaux que pour les hommes. On célébra la messe sur la mangeoire comme autel.
La crèche est devenue un temple consacré au Seigneur. Sur l'emplacement de la mangeoire, un autel a été construit en l'honneur du bienheureux François, afin que là où les animaux ont autrefois mangé leur nourriture composée de foin, les hommes mangent désormais, pour la santé de leur âme et de leur corps, la chair de l'agneau sans tache.